Yann Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Alderaan, c'est ça?
Oui, c'est cela. Si cet appareil est rapide.
Si mon appareil est rapide, vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? C'est ce type d'appareil qui a fait le raid sur Kesselring en 20 parsecs. Je bats les engins de l'Empire en vitesse pure.
Bienvenue au cinquième épisode régulier de Millennium Condor Balado Diffusion. Une émission en français dédiée au jeu de X-Wing miniature de Fantasy Flight Games. Vous y trouverez des discussions positives et sans prétention de notre point de vue semi-compétitif. Cette diffusion est facilitée par Collect Edition. Je suis Bruno Lavigueur et on retrouve Julien Dort. Bonjour Julien.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Hey Julien, aujourd'hui on ne perd pas de temps, on a un gros épisode, on attaque tout de suite notre bloc d'actualité. À toi.
Alors au niveau de mon actualité, de mon côté, je profite de l'espace que tu m'accordes pour passer un petit message spécial. Je voudrais prendre la parole au nom des personnes qui participent à notre ligue et te remercier Bruno pour l'énorme travail que tu as entrepris pour monter, pour gérer, pour animer la ligue. Donc au nom de tous les joueurs, un grand merci pour l'énergie que tu dépenses dans la ligue et puis pour tout ce qui est autour.
Wow, écoute, tu me prends de court un peu, là. Merci. Je savais pas que tu me shooterais des fleurs comme ça. Écoute, j'apprécie beaucoup. Je le fais parce que j'aime ça, hein, puis j'aime ça être avec tout le monde dans la ligue. Fait que moi, je remercie les gens de la ligue qui sont là, puis qui rendent ça vivant de semaine en semaine. Fait que je pense que c'est un merci mutuel, puis on a bien du fun.
Alors, on continue comme ça, c'est cool. Mais nous, on apprécie aussi tous les efforts que tu fais, puis je pense que tout le monde est de mon avis. J'ai pas demandé l'accord de tout le monde pour parler en leur nom, mais je suis sûr qu'ils sont de mon côté.
Merci beaucoup.
Sinon, au niveau des articles que j'ai lus sur X-Wing Miniature, il t'en a partagé deux qui sont rudement intéressants sur le groupe Millennium Condor Balado Diffusion à propos de Gun for Hire, donc la future extension qui vient de sortir, si jamais vous avez réussi à l'avoir. On a un article sur l'atelier du Faucon qui parle du pack en général, c'est une traduction et quelques avis sur le pack en général. Et puis on a un article de Scum Tactics qui détaille plus en profondeur donc surtout le nouveau Star Viper. Et l'avantage, c'est qu'en plus, tout ça, c'est en français, donc n'hésitez pas à aller voir ces deux groupes, en tout cas ces deux liens que Bruno a partagés sur le groupe Facebook. C'est vraiment super intéressant, et puis en plus, ça encouragera les gens qui ont fait ce travail-là. Et toi, de ton côté, Bruno, qu'est-ce qu'il y a niveau actualité?
Ouais, côté actualité, moi, premièrement, on vient de finir la sixième saison, justement, de la Ligue Collect Edition. Bravo à Sylvain Larouche, qui finit avec une saison parfaite. Première fois qu'on voit ça en six saisons. Bravo à Philippe Tremblay qui a gagné la grande finale pour la première fois en 6 tentatives. Philippe, c'est le vétéran là, des tout débuts. Il finissait quasiment toujours premier de la saison régulière, mais il n'était pas capable de mettre la main sur la grande finale. Là, c'est fait. Bravo Philippe. Donc, une belle saison en bout de ligne. On a accueilli deux nouveaux joueurs cette année, Marc-André Larocque, dit le professeur, et la recrue Thomas Boldic. À mentionner que Thomas, c'est un très jeune joueur, mais très talentueux. Puis moi, je pense que j'étais en train de développer une phobie là, avec les jeunes joueurs comme lui et Arthur Leclerc. Là. Ça me fait peur. Okay? Moi, les enfants sans merci comme ça, là, qui n'ont pas peur des adultes et qui les battent sans scrupules, là, ça vient me chercher en dedans. Il y en a du monde qui ont peur des clowns, là, moi, j'ai peur de ces enfants-là.
Ouais, les enfants, un peu de respect aux vieux, là. Oh, sérieux, quoi. Passer sur les astéroïdes.
C'est ça, passer sur les astéroïdes. Ça, c'est un message pour Arthur. Ensuite de ça, on a aussi notre premier tournoi officiel Millennium Condor Balado Diffusion qui s'en vient le 12 novembre prochain. Hein, c'est un format alternatif. Pas d'unique, pas de doublon. Donc, ça veut dire aucune carte avec un point devant le nom. Puis, pas deux fois le même vaisseau, même si c'est deux pilotes différents. Puis là aussi, j'ai peur, parce que ce sera pas facile. Puis en plus, Thomas va être là. Fait que moi, écoute, je vais faire des cauchemars là, jusqu'au 12 novembre.
C'est devenu ta bête noire.
Exact. Ah, Thomas, il m'a rincé. Là. J'ai jamais vu ça de la violence comme ça. Là. Écoute, j'ai resté marqué.
Bon. Il va se faire tatouer le nom de Thomas.
C'est ça. Je te propose qu'on passe tout de suite à notre sujet du jour.
Oui.
Bloc principal, c'est les types de joueurs. Pour notre sujet principal aujourd'hui, je voulais vraiment aborder ça, les types de joueurs. Si on comprend mieux hein, de quel type de joueur on est nous-mêmes, on va être capable de peut-être même reconnaître le type de joueur de notre adversaire. On risque d'être plus en mesure de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la table. D'un point de vue d'une partie décontractée, ça va nous permettre d'éviter des expériences négatives ou ça va aussi nous aider à amener des nouveaux joueurs. T'sais, si on comprend qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qui les motive, on va pouvoir les intégrer dans le jeu plus facilement. Mais d'un point de vue compétitif, ça peut aussi nous aider à mieux bâtir des listes qu'on aime dans le méta actuel puis aussi de comprendre pourquoi on est satisfait une fois qu'on a gagné ou pourquoi ça ne nous dérange pas d'avoir perdu d'un fois. Évidemment, sans parler de l'avantage psychologique qu'on peut avoir sur un adversaire, si on reconnaît son type de joueur à lui, puis qu'on connaît le nôtre, ben notre adversaire peut devenir assez prévisible. Ça peut nous permettre de mettre en place des pièges ou d'en éviter. Fait que les informations qu'on va présenter viennent en fait de deux articles qui avaient été écrits pour Magic the Gathering il y a un certain temps, là, plusieurs années, mais les concepts restent super actuels parce que moi, je trouvais que ça s'appliquait tellement bien à X-Wing que c'était juste naturel de faire le parallèle. Il y avait un article original qui, après ça, a été revisité quelques années plus tard, où ils ont bonifié un peu les concepts. Dans l'article original, il y avait un test qui venait avant. Puis là, ça te permettait de déterminer qu'est-ce que tu étais, toi, comme joueur. Mais là, ce test-là n'est plus disponible. On va juste passer à travers les grandes informations. Puis là, écoute, Julien, toi, moi, puis tout le monde, là, on aura notre propre introspection à faire pour voir quel type de joueur on est. Là, on fera notre méditation profonde, puis on essaiera de comprendre pourquoi notre cœur est si noir, là, puis pourquoi on est méchant dedans de nous. Non, on n'est pas méchant dedans de nous, mais ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui nous motive. Tout ça a commencé quand l'équipe de recherche et développement de Magic a développé des archétypes de joueurs. Leur mandat à ce moment-là, écoute, ça doit être encore leur mandat aujourd'hui, là, c'était de créer un jeu qui rendait les joueurs heureux. Donc, eux autres, pour faire ça, ils se sont dit, pour être capable de générer les bonnes émotions chez les joueurs durant le jeu, on doit être capable de comprendre qu'est-ce qu'il veut le joueur quand il joue, comprendre les raisons de pourquoi il est en train de jouer, trouver ce que les joueurs y aiment dans le jeu, qu'est-ce qui les rend heureux. Puis après un processus de plusieurs années, parce que ça a été sur des sondages, sur des analyses, sur des études, ainsi de suite, ils en sont venus à la conclusion qu'il y avait trois grandes familles de types de joueurs. Eux, ils ont développé des profils psychographique des joueurs. Le principe d'un profil psychographique, ça propose qu'en isolant les différents comportements et traits de personnalité, on peut comprendre qu'est-ce qui motive un type de personne à agir d'une certaine façon. Par exemple, les profils psychographiques qui sont utilisés par les agences de publicité pour comprendre qu'est-ce qui va influencer les gens à acheter les biscuits Ritz plutôt que telle autre sorte de biscuit, puis pourquoi ils achètent le savon à vaisselle comme ça plutôt que l'autre, ainsi de suite. Puis c'est, bien évidemment, c'est aussi utilisé dans le monde du divertissement, dans le monde du jeu comme Magic ou X-Wing. Ça veut dire que les joueurs sont regroupés dans des familles en fonction de ce qui les motive à jouer. En fonction de quel type de stratégie, quel type de tactique ils vont préférer, ou encore qu'est-ce qui les fait continuer à jouer. Qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à jouer à X-Wing, ces gens-là? Évidemment, les trois grandes familles se chevauchent. Imaginez-vous que c'est trois ensembles, là, qui un par-dessus l'autre, qui se touchent au milieu. On a tous un type dominant, avec des gènes récessifs des autres types de joueurs, des autres profils. Puis ça fluctue dans le temps aussi. Il y a des périodes où on est plus comme ça ou plus comme ça. Les trois grands profils, eux, sont arrivés et ont donné des noms qui sont un peu représentatifs, là. Le Timmy, le Johnny et le Spike.
Je suis sûr que si les rebelles ont la témérité de s'attaquer à l'étoile noire, ils s'en seront pour leurs frais. S'ils veulent essayer, je leur souhaite bien du plaisir. L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
On va commencer avec le Timmy. Le Timmy, c'est dans l'article original, il présentait le Timmy comme l'innocence de l'enfance. Ça rappelle l'enfance au premier degré. Puis là, moi ici, là, on aurait pu les appeler les Anthony, puis ça c'est mon garçon, ou même on aurait pu les appeler les Bruno, parce que je me suis reconnu pas mal dans ce profil-là à certains éléments. Imaginez-vous qu'un enfant, il reçoit là, un YV666 à Noël ou à sa fête. Là, il est tout content, il ouvre la boîte. T'sais, il est déjà impressionné parce que le vaisseau, c'est une grosse base, il prend beaucoup de place. Puis après ça, il commence à regarder les cartes. Puis là, il voit le pilote Bosque. Puis là, quoi? Changer un critique en deux touchés. Waouh! Déjà là, il est comme impressionné. Puis là, après ça, il voit que le vaisseau, il a 6 points de coque, 6 boucliers. Waouh! Ce vaisseau-là, c'est un monstre. Là, il commence à capoter. Puis là, ses yeux continuent à se promener sur la carte. Puis là, il voit un défense. Hein, OK, la roulette. Ouf, c'est ordinaire. Blablabla, c'est plate. Je m'occupe pas de ça, je continue. Puis là, il voit qu'il y a trois passagers, un canon, le missile, le talent d'élite de pilote, une place pour glissite. Puis là, dans les cartes de l'amélioration, il se rend compte qu'il y a le loup solitaire, le droïde de sécurité cocarde, le technicien hors-la-loi. Puis là, il se met à capoter. Là. Dans sa tête, là, il voit des synergies, des listes imbattables. Il est en train de se voir lancer des milliers de dés rouges. Là. Fait que ça, le Timmy, c'est qu'est-ce que les joueurs de Donjons Dragons vont appeler le Power Gamer, ou le joueur de puissance. Ce gars-là, il veut rien savoir de gagner par 10 points à la limite du temps, après un enchaînement de manœuvres savantes, là, puis d'esquives, puis de machins. C'est pas ça qu'il veut, lui. Lui, il veut gagner gros. Il veut surexterminer ses adversaires. Okay? Il aime ça que ses listes soient impressionnantes. Il aime ça jouer des gros vaisseaux ou des gros trucs qui font boum. Il veut prendre de la place, il veut faire du bruit, il veut lancer des dés rouges. Le plus de dés rouges, le mieux. Pour lui, là, le paradis, là, c'est de détruire un ou deux vaisseaux par tour là, avec un maximum de dommages dans le vide. Là. Si son adversaire, son vaisseau, il reste deux points de vie, puis il lance 6 dés, puis il tue avec 4 critiques, là, il est content. Là. Lui, l'overkill, là, il aime beaucoup ça. Fait que, tu sais, dans un sens, lui, il va être attiré là, par les listes Alpha Strike, un peu, si on veut. Les listes de première frappe, là, d'attaque du premier tour. Attention, le Timmy, c'est pas nécessairement un jeune. Même si c'est vrai que les joueurs les plus jeunes et ou moins expérimentés là, vont avoir tendance à se retrouver dans cette catégorie-là, on retrouve des Timmy de tous les âges. Ce qui va les différencier des autres profils, du Johnny et du Spike, c'est que lui, il est motivé par le plaisir. Il joue à X-Wing parce que c'est plaisant, parce qu'il a du plaisir. C'est une bébite sociale aussi, c'est quelqu'un qui veut être en interaction. Puis pour lui, ça, c'est une partie importante du jeu, c'est d'être avec des amis. Le Timmy va être plus préoccupé aussi par la qualité de ses victoires que par la quantité. Par exemple, le Timmy, là, il fait un tournoi, il joue 6 rondes, il en gagne 2, mais dans ses 2 victoires sur 6 parties, il y en a deux là, où il a complètement dominé et anéanti son adversaire. Là, l'autre gars, il est parti la tête entre les jambes parce que ça a duré 20 minutes sa partie. Ben là, Timmy a eu du fun, puis il rentre à la maison, il est bien content. Habituellement, là, les développeurs de jeux vont s'assurer de mettre des cartes, les cartes ou des éléments, des pilotes ou des upgrades ou peu importe, pour ce type de joueur-là, pour les Timmy, dans tous les nouveaux produits. Okay? Des habilités, des améliorations, des missiles qui impressionnent, qui donnent l'impression que tu vas exploser à la table avec ça, puis qui vont faire bien du bruit. La plupart du temps, par contre, ça va être des éléments qui sont super excitants quand tu regardes, tu te mets à capoter, mais qui coûtent super cher, fait qu'ils vont faire hésiter les autres types de joueurs. Commentaire, Julien?
Non, j'ai rien, c'est pour ça que je disais rien. Okay, désolé.
C'est bon, il n'y a pas de trouble. C'est ça qui définit le premier archétype dans le premier article. Le premier article qui est sorti. Après ça, ils ont revisé ça un peu. Ils ont été un peu plus loin là-dedans. Et on dit, OK, le Timmy, il joue parce qu'il veut vivre une expérience, il veut ressentir de quoi de viscéral. Les deux autres profils, eux autres, ils ont un but. Hein. Leur but, eux autres, c'est la destination. Le Timmy, lui, c'est le voyage qui l'intéresse. C'est pas tant la victoire qui l'intéresse, même s'il aime ça gagner, là, trompez-vous pas. Mais lui, il va avoir du fun. Le plaisir va se définir, il va pas se définir de la même façon pour toutes les Timmy par contre. Fait que là, ils ont sorti des sous-catégories pour les Timmy. On commence avec le joueur de puissance. Ça, c'est pas mal ce qu'on a défini dans le premier article. Hein. Une portion des Timmy va aimer ça gagner gros, gagner fort. Le Timmy de puissance, lui, veut pas une victoire à l'arraché à la dernière minute par 10 points. Il veut écraser ses adversaires, il veut dominer, il veut les one-shotter, comme on dirait bien en anglais. Là. Il veut faire des trous d'un coup avec tous les vaisseaux qu'il y a devant lui. Pour lui, jouer avec X-Wing, là, c'est de voir comment gros il peut faire ça. Combien de dés rouges il peut lancer à une attaque? C'est quoi le vaisseau le plus armé jusqu'au dents qu'il est capable de mettre sur la table? Il veut que sa liste et que ses vaisseaux soient impressionnants. Il veut jouer des gros vaisseaux avec des grosses statistiques. Pour lui, là, des dés rouges égale le plaisir. Plus qu'il y a de dés rouges, plus qu'il y a de plaisir. Il faut bien comprendre, par contre, que le Timmy de puissance est un sous-groupe et ça ne représente pas toutes les Timmy. Ça veut dire que les concepteurs vont prévoir certains éléments spécifiquement pour les Timmy de puissance, des grosses statistiques, beaucoup de dés rouges, plein d'explosions. C'est, en général, ces éléments sont excitants, mais pas très économiques, un peu comme on a dit tantôt, puis ils vont avoir des faiblesses. Après ça, tu as le joueur social, tu as le Timmy social. Lui, il est motivé par le plaisir de l'activité en soi. Il joue à X-Wing parce que c'est plaisant d'être avec ses amis le soir de ligue et de rencontrer des gens lors des tournois. C'est vraiment l'aspect social qui l'attire. Il va jouer des vaisseaux, des améliorations qui maximisent les interactions bizarres ou drôles avec les autres joueurs. C'est ce qui crée des moments intenses qui vont faire rire ses amis, qui vont l'allumer, lui. Ce genre de Timmy-là, le Timmy social, va être attiré par la portion multijoueur ou du type campagne du jeu. Il aime que tout le monde soit impliqué dans la partie. De tous les Timmy, le social est celui qui va créer le plus de règles maison ou décider de bannir des cartes de sa ligue que lui va organiser dans le but d'avoir plus de plaisir puis que tout le monde participe parce que certaines cartes, ben, ils dérangent puis on n'a pas de fun quand ces cartes-là, ils sont en jeu. Fait que les concepteurs vont aussi penser aux Timmy sociaux quand ils vont inclure des scénarios ou des campagnes dans certains produits. Hein. On pense dans nos vaisseaux épiques, là, on a des campagnes avec les vaisseaux avec des larges bases, on retrouve les scénarios. Exemple, la campagne Heroes of the Atri Cluster, qui est un jeu coop, ben, ce groupe-là, il adore ça. C'est une opportunité de boire une bière avec des amis, de lancer des dés rouges, de se faire des high-fives. Donc, ils aiment beaucoup ça. La plupart du temps, les gars qui organisent des ligues ou qui maintiennent des communautés là, ont pas mal de timide social dans le nez.
J'ai un peu le sentiment aussi que c'est les personnes qui postent le plus de photos atypiques sur Facebook. Tu sais, les types barbecue X-Wing, où je pense qu'une bonne manière de les repérer au hasard, c'est quand ils postent des photos, je sais pas, au hasard d'une partie de X-Wing sur une aire de repos d'autoroute.
Oui,
ou c'est ceux qui vont te poster la photo parce qu'ils ont réussi à mettre le vaisseau dans une position improbable avec d'autres vaisseaux. Enfin, ils sont tout contents en disant « Regardez comment je vais me faire démonter la tronche parce que mon vaisseau, il se retrouve en face à face avec ce qu'il faut pas ». En tout cas, quand je vois le Timmy Social, c'est ces gens-là très, très Facebook avec les photos et les choses comme ça sur les situations, je dirais, drôles.
Après ça, on passe aux joueurs de diversité. Okay? Le troisième sous-groupe trouve son plaisir dans la variété que va présenter le jeu. Grâce aux nombreuses, ou par le fait qu'on peut faire plein de combinaisons avec les pilotes, les améliorations, les armes secondaires, ainsi de suite, plusieurs archétypes de listes vont exister. Le Timmy Diversité veut toutes les essayer. C'est la constante exploration qui représente le plaisir pour lui. Il veut tout essayer les composantes dans toutes les ordres. À chaque fois qu'il joue, il veut essayer de quoi de différent de la dernière fois. OK, d'une fois, il va revenir sur ses anciennes choses ou ses trucs, mais c'est juste pour reprendre son souffle avant de replonger plus profondément dans son exploration. C'est ce groupe de Timmy-là qui va être le plus susceptible d'essayer des améliorations ou des passagers que personne d'autre va jouer. Pas pour prouver qu'ils peuvent être comme les Johnny, puis on va parler des Johnny tantôt, mais parce qu'ils sont vraiment intrigués ou vraiment curieux de savoir si la carte pourrait être drôle. C'est vraiment l'aspect drôle, les Timmy. Hein? Pas d'archétype ou de faction préférée, eux autres, la chasse est ouverte sur tous les types de gibier. Si je suis capable de faire une combinaison avec les impériaux, qui est drôle puis qui fait rire, puis de l'autre côté, après ça, ben, à partir d'après, je suis capable de refaire de quoi d'un peu différent avec les racailles, ben go. Moi, je me contente pas d'une faction, j'essaie tout ce que je suis capable de trouver. Ensuite de ça, tu vas avoir le joueur d'adrénaline. Le Timmy d'adrénaline. Bon, ce dernier sous-groupe-là, il va embrasser le plaisir de la variabilité du jeu. Il va aimer ça jouer des listes avec des vaisseaux et des améliorations qui vont rendre la partie imprévisible. Pour ce Timmy-là, le plaisir dans la partie, c'est de voir toutes les choses différentes qui pourraient arriver. Eux, ils aiment l'aspect du hasard et le fait que le résultat pourrait être différent à chaque fois. Vite comme ça, là, ils n'auront pas peur d'utiliser des trucs qui peuvent leur nuire si ça fait boum. Et en plus de faire boum, s'il y a une chance que ça marche. Par exemple, passer sur ses propres mines, si en bout de ligne, il peut s'en tirer et en même temps détruire un vaisseau ennemi. Puis encore plus, si ça risque de mal virer pour lui, tu comprends? Je passe sa mine, je peux détruire mon adversaire. Deuxième option, je peux détruire mon adversaire. Et moi-même, ah, super drôle, j'y vais. Puis pour ces Timmy-là, la seule raison de jouer, c'est d'avoir du plaisir puis de rigoler. Fait qu'on peut voir la constante qui revient tout le temps avec les Timmy. Les adrénalines Timmy pilotent comme des têtes brûlées. Okay? Ils aiment ça la pression de devoir s'adapter rapidement et continuellement à l'imprévisible. Donc, ils vont souvent se mettre eux-mêmes dans des situations bizarres. Et ça donne comme résultat que ce Timmy-là est attiré par différentes listes et différents formats de jeu qui vont rendre chaque partie la plus différente possible de la dernière. Des trois profils psychographiques, c'est toujours le Timmy qui est souvent regardé de haut par les autres profils. Mais attention, le Timmy, là, c'est pas un tatan. Hein? Il choisit ses pilotes et ses améliorations en fonction de ses propres buts à lui, avoir du plaisir. C'est clair que les deux autres profils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut faire le Timmy. Le Spike et le Johnny ils ont des buts complètement différents, puis quand ils voient arriver un Timmy, ils trouvent ça drôle, eux autres même, ils rient de ça parce qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Okay? C'est pas pour ces raisons-là que eux, les Spike et les Johnny, vont choisir leurs améliorations ou leurs pilotes. Mais de l'autre côté, c'est ça le but d'un profil psychographique, c'est d'expliquer comment les joueurs sont motivés par différents critères. Julien, as-tu quelques exemples de vaisseaux, de combinaisons ou de cartes qui pourraient vraiment allumer un Timmy?
Oui, ben alors, c'est certain que si on veut chercher les cartes que les Timmy préfèrent, en tout cas, ils veulent avoir beaucoup de dés rouges, beaucoup de fun, beaucoup de... On s'en fout de l'efficacité. Là, c'est juste le plaisir de balancer des trucs. Donc, évidemment, un gros exemple, ça serait le VCX-100, donc le Ghost, avec le fantôme, à quel tu mettrais des tourelles laser jumelées, donc des TLT. Évidemment, une liste avec deux Ghosts, donc deux VCX-100, c'est quelque chose qui va faire triper, qui va beaucoup amuser les Timmy, parce que beaucoup de dés, ça tape de partout.
C'est gros, ça prend de la place.
C'est gros, ça prend de la place. Côté impérial, on pourrait évidemment mettre les décimators, qui sont, on va dire, à peu près le pendant du VCX-100 côté impérial. Et moi, j'irais même jusqu'à mettre, d'une certaine manière, les vaisseaux épiques, mais pas les gros, mais les gros vaisseaux, parce que ça a plein de points de vie, c'est énorme sur la table, ça a plein de dés qui partent dans tous les sens, ça peut écraser les autres vaisseaux quand ça fonce dedans. C'est plein de situations qui peuvent être cocasses à faire avec des vaisseaux épiques. Donc, c'est vraiment les vaisseaux épiques, je pense que ça peut vraiment amuser les Timmy. Dans un autre style, on peut avoir évidemment Rey et Finn dans un faucon accompagné de Jan Horst. Tous ceux qui ont fait ou qui ont joué contre cette liste, ça, ont pu comprendre que se prendre 6 à 7 hits dans la tête, c'est drôle quand c'est toi qui les lances.
Nuance.
Et voilà. Évidemment, toutes les listes Alpha Strike qu'on pourrait penser actuellement, avec toutes les listes qui ont des missiles, des cruise missiles ou des choses comme ça, où dès le deuxième tour, vous envoyez 5 dés par vaisseau qui est de votre côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... une bonne grosse attaque dès le début. Et après, le Timmy, il se moque de ce qui se passe ensuite. C'est, j'ai fait ma grosse attaque, j'ai cassé plein de trucs, c'était drôle.
Ouais.
Et puis, la partie continue.
Ouais.
Donc évidemment, les missiles cruise missiles, on peut avoir des améliorations comme Expose, les torpilles à protons avancées, les missiles à concussion, missiles de croisière. Évidemment, on va aller dans les cartes aussi, dans les copilotes type canonnier. Oui, j'ai raté mon attaque, mais je peux relancer. Je peux encore relancer des dés rouges, c'est cool. Dark Vador, je m'en fous, je prends des dégâts, mais je te mets une carte. Tu sais, c'est,
ouais.
C'est pas grave, moi. Moi, c'est pas grave les dégâts que je prends. C'est je te mets des dégâts. C'est ça qui est drôle. On va avoir des cartes comme Biston, comme copilote mercenaire, comme Zeb. Je te rentre dedans, mais je peux quand même te taper dessus. C'est pas grave si tu m'attaques, parce que moi, je peux t'attaquer.
Ouais.
Et évidemment, Deadman Switch, donc salve automatique. C'est ça l'état d'esprit des Timmy.
Génial. Tu te reconnais-tu un petit peu là-dedans, toi, Julien?
Je pense pas que ça soit mon principal, les Timmy.
Non. Moi,
Bien que Rey Finn, accompagné de Jan Horst, c'est sûrement une des listes les plus drôles que j'ai jouées récemment et que j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai des petits restes de Timmy à quelque part, mais je pense pas que ça soit mon principal.
C'est pas ton dominant. OK. Moi, je pense que c'est un fort pour moi, ça, le Timmy. Mais c'est peut-être pas mon 100% dominant où il était égalité avec un autre qu'on va parler un peu plus tard. Donc,
je pense que Timmy Social doit être pas mal pour toi quand même.
Hein. Oui, le Timmy Social, il est fort en moi.
Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force.
Est-ce que tu y vas avec les Johnny, s'il te plaît?
Oui, alors on attaque les Johnny. Le Johnny, c'est le joueur créatif pour qui X-Wing, c'est une forme d'expression de soi. En fait, lui, il aime gagner, mais il veut gagner avec du style, avec la classe. C'est très important pour Johnny de gagner selon ses conditions. C'est pour ça que c'est important pour lui d'utiliser ses propres listes. Un affrontement d'X-Wing, pour lui, c'est une opportunité de démontrer sa créativité, d'être différent et de gagner sans être méta. Donc le méta, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est « Most Effective Tactic Available ». Donc c'est grosso modo les meilleurs escadrons actuellement en jeu, celles avec lesquelles vous avez le plus de probabilité de gagner. Lui, le Johnny, c'est... Il ne veut pas jouer méta, il veut jouer sa propre liste qu'il a créée. Donc le Johnny, il aime les défis. Il adore gagner avec des pilotes des améliorations que personne d'autre n'utilise. Il aime faire des escadrons qui gagnent de façon innovatrice. Il n'y a pas vraiment dans X-Wing de manière alternative de gagner, mais pour ceux qui jouent aux jeux de cartes, par exemple, les Johnny, c'est ceux qui vont en premier faire des jeux de cartes qui vont vous faire piocher toutes vos cartes parce qu'à la fin, vous n'avez plus de cartes, vous avez perdu. C'est ce genre d'état d'esprit, c'est-à-dire... Comment est-ce que je peux essayer de retourner les règles pour trouver une manière de gagner un peu différente?
C'est comme ioniser son adversaire et puis l'escorter à l'dehors de la...
Ouais, on en viendra après, ça. ce qui caractérise Johnny, c'est qu'il prend autant de plaisir, et si ce n'est plus, à construire son escadron, mais qu'à jouer la partie. Il adore les synergies entre les cartes. Il est à son plus heureux lorsqu'il explore de nouvelles combinaisons. Il aime les interactions entre les passagers obscurs, les améliorations qui fonctionnent, et les conditions un peu précises qui font que tout s'active. Comme le Timmy, le Johnny place plus d'importance sur la qualité de ses victoires que sur leur quantité. Pour imager, Johnny, lui, il arrive avec une liste sans queue ni tête, qui est bâtie sur un combo complètement hallucinant, qui assure la victoire, mais qui est pratiquement impossible à réaliser. Et alors, le Johnny, lui, s'il joue 10 parties, et qui réussit à aligner les étoiles, à ce que les planètes soient dans le bon axe, à ce que l'électricité soit ici et que tous les projecteurs soient braqués et que le combo s'active et qu'en plus, le combo fonctionne. Alors là, il peut perdre toutes les parties de toute sa journée Et le Johnny, il est heureux. Le Johnny, il rentre chez lui en disant « Waouh, c'était une journée géniale ». Ici, pour plaire au Johnny, les développeurs s'assurent de concevoir et d'inclure des éléments avec des effets uniques, des trucs un peu marginaux, autour desquels il pourra construire une Lix complexe, mais surtout originale.
Oui, tu vois, moi...
Est-ce que t'aurais quelque chose?
Ben oui, c'est... Oui? Moi, là, les Johnny, ça me fait penser à Louis-Philippe Bérubé dans Ligue, qui nous sort tout le temps des listes qui ont pas d'allure, puis tu comprends pas pourquoi que ça marche. Là. Pas pour rien que son surnom, c'est l'original. Et ça me fait penser à ça. Dans une autre optique aussi, ça me fait penser à Pierre-Cyril Brault, qui était dans la Ligue la saison passée, puis que lui aussi, il avait sa liste. Là. C'était un joueur de quad jumper et de rien d'autre. Là.
Oui. Mais tu vois, lui, je le mettrais peut-être sur un peu plus tard parce que justement, c'était le quad jumper.
OK. Donc, si je continue avec l'article revisité, donc la suite de cet article-là, dans la révision de l'article, ils vont un peu plus loin. Ici, le Johnny est très concentré sur sa personnalisation du jeu. La construction de l'escadron n'est pas un simple aspect du jeu, c'est the aspect. OK, c'est ça le jeu, c'est de faire l'escadron. Un des points forts de X-Wing vient de la possibilité justement que les joueurs ont de s'investir dans leurs escadrons, de se l'approprier. Tu sais, souvent quand on a développé une liste, après ça on est comme émotif, là, c'est ma liste, là, alors je serais pas sûr qu'elle va marcher. Tu sais, quand tu joues au Monopoly, là, tu deviens pas tellement émotionnel ou attaché à tes pions et tes maisons. Hein. T'sais, ton hôtel, quand tu la vends pour refaire de l'argent, ben, tu t'en sacs un peu, tu n'avais pas donné de nom, fait que ça passe. Mais à X-Wing, ton escadron devient un peu une extension de toi-même. Quand t'es un Johnny, du moins. Là. Quand ta formation gagne, tu gagnes. Quand ta liste se fait complimenter, ben c'est toi qui se fais complimenter. C'est ça le principe qui fait battre le cœur des Johnny. Comme pour les Timmy, les Johnny ont plusieurs sous-groupes. Par contre, l'accent n'est pas mis sur la même place. Les Timmy tournent autour des enjeux de ce qui rend la partie plaisante. Le Johnny, lui, va se concentrer sur comment une personne peut s'exprimer.
Alors, une des premières sous-catégories de Johnny... On a le Johnny qui est le joueur de combo ou de synergie. Comme le joueur de puissance définit les stéréotypes des Timmy, le joueur de combo définit les stéréotypes des Johnny. Ce sous-groupe, donc le sous-groupe des joueurs de combo, il est fasciné par les interactions. Son but, c'est de trouver un combo, une synergie que personne n'avait encore trouvé. Il veut créer un escadron qui va impressionner tout le monde au premier coup d'œil. À cause de ce désir, le Johnny combo est attiré par des pilotes, des améliorations ou même des listes qui donnent une impression de grand potentiel. Il apprécie particulièrement les pilotes autour desquels il peut construire sa liste. Le Johnny Combo se distingue des autres sous-groupes parce qu'il se concentre beaucoup sur l'aspect modulaire du jeu. Il voit chaque carte individuellement et non comme un ensemble d'éléments.
Tu vois, je pense que présentement, chez les développeurs là, de X-Wing FFG, il y a une coupe de Johnny Combo parce que les nouvelles cartes, il me semble que depuis une coupe de Wave.
Oui. Je pense qu'il y a une coupe de Johnny Combo parce que les combos qui s'activent sur 3-4 conditions différentes, oui.
Oui, c'est ça.
Ok, donc un deuxième sous-groupe. Le deuxième sous-groupe, c'est le créateur hors tempo. Alors, derrière ce nom un peu étrange, il veut exprimer quelque chose. Du fait qu'il commence d'une perspective différente, le Johnny créateur hors tempo, si on peut l'appeler comme ça, arrive souvent avec des escadrons vraiment étranges. C'est pas les pilotes et les améliorations qui sont le moteur, mais plutôt un concept, une idée. Donc, à la différence de l'autre avant, c'est qu'il voit pas les cartes, il voit juste, il a son idée dans la tête, et il se dit, je veux faire une liste, et je veux que ma liste, elle ne lance pas de dés rouges. Voilà.
C'est ça.
Il est parti d'une idée, il s'est dit, comment je pourrais faire une liste qui lance pas de dés rouges? Et là, il construit sa liste. À l'inverse de celui d'avant, où il voyait les éléments, là, c'est vraiment, j'ai une idée. Ou, tiens, si je faisais 3 navettes lambda avec des canons à ions et correcteurs de visée, ou juste des quad jumpers. Donc, pour revenir sur l'anecdote des 3 navettes lambda et canons à ions, j'ai eu le malheur, ou la chance, dépendant de comment est-ce que vous voulez le voir. J'ai joué contre une personne qui m'a... Alors, il n'avait pas 3 navettes lambda, il en avait 2. Il avait 2 navettes lambda, canon à ion, correcteur de visée, et il avait le Slave One avec canon à ion, correcteur de visée. À mon grand malheur, je lui ai présenté en face un B-Wing, un seul dé de défense, un K-Wing, un seul dé de défense, et un T-65, 2 dés de défense. Le problème, c'est que son canon à ion avec correcteur de visée fait 2 touchés automatiques. Autrement dit... Le Johnny créateur hors tempo que j'ai affronté ce jour-là était l'homme le plus heureux de la planète. Je pense que vous auriez pu lui annoncer qu'il gagnait au 649, que c'était moins bien que ce qu'il vivait en ce moment-là. Parce qu'il est venu avec une liste qui, On s'entend que deux navettes lambda avec des canons à ions et correcteurs de visée contre une liste un peu différente, avec un peu plus de défense, il n'y avait pas grande chance que ça passe. Mais là, ce jour-là, il est tombé sur la liste en face de lui qui allait montrer son combo. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il a ionisé mes trois vaisseaux pendant toute la partie. Pendant 1h05, je n'ai quasiment jamais tourné mes roulettes. Mes roulettes de mouvement, puisque je me faisais ioniser à chaque tour. Et je me suis fait accompagner mes vaisseaux à l'extérieur de la map, gentiment. La sortie est par là.
Sans violence.
Sans violence. On vous parlait de comment gagner alternativement. Eh ben, si votre adversaire sort ses vaisseaux de la carte, même si c'est pas de sa faute, eh ben, c'est une manière de gagner. Voilà. Donc, ce jour-là, j'ai affronté un Johnny hors tempo, qui était l'homme le plus heureux. Et c'est vrai que, il était tellement heureux qu'il l'exprimait et que ça pouvait devenir encore plus frustrant pour moi si à l'époque j'avais compris que cette personne était ce profil-là, j'aurais pu
accepter
ces élans de joie. Donc la différence entre le hors tempo Johnny et le Johnny combo qu'on a vu avant, c'est comme je l'ai expliqué, c'est pas une importance énorme. C'est juste que le Johnny combo, lui, il voit les cartes et il les assemble ensemble. Alors que le hors tempo, lui, il a une idée dans sa tête et il se dit « Ah, ça c'est intéressant, ça c'est un vrai défi, personne l'a fait, alors si en plus personne l'a fait, imaginez, personne l'a fait, je vais faire un truc comme ça. » Et voilà, ça c'est vraiment la différence entre ces deux Johnny-là.
Oui, c'est ça, le premier c'est un explorateur, puis le deuxième c'est un inventeur, c'est ça la différence.
Voilà, troisième catégorie de Johnny, c'est l'artiste des listes. Lui, l'artiste des listes, il construit aussi des escadrons, évidemment, comme tout le monde dans X-Wing, mais lui, il a une autre idée derrière la tête. Lui, le Johnny artiste, il cherche pas à rien trouver ou à démontrer quelque chose. Lui, il cherche à utiliser la construction d'escadrons comme une forme d'art d'auto-expression. Mais il crée des escadrons qui représentent l'essence du pilote impérial, donc du pilote impérial Zeta. Donc il va tenter de jouer de façon à faire apprécier à son adversaire le choix unique et particulier qu'il a fait de son pilote et de ses améliorations. Et le Johnny Combo et le Johnny Hors Tempo qu'on a vu avant, eux, ils s'en foutent de démontrer aux autres ce qu'ils font. Eux, c'est pour leur plaisir à eux. Le Johnny Artiste, lui, il veut démontrer aux autres comment il le fait. Alors,
c'est pas évident, celle-là. Hein,
c'était super compliqué de trouver des listes thématiques. Pour être très honnête avec vous, Bruno m'a envoyé le truc et il me fait « Hey, faudrait les listes thématiques pour les Johnny Artistes de liste. » Et là, j'ai regardé et je fais « Oh !» Par chance, dans notre ligue, on a une personne qui a quelques traits de Johnny Artiste. Et un jour, il est arrivé avec un B-Wing. Je vais pas faire toute la liste, je vais juste vous présenter le B-Wing avec lequel il est venu. Son B-Wing, il a un pilote qui s'appelle Kayan Farlander. Peut-être que vous le connaissez, il y a de fortes chances que non. C'est un pilote qui, lors d'une attaque, te permet de t'enlever un stress pour changer tes focus, concentration, en hit. Sur ce B-Wing, il a rajouté le titre du B-Wing qui te permet d'avoir un copilote. Et il a mis en copilote Hera, qui te permet de faire des manœuvres rouges, même si tu es stressé. Là, on commence à voir peut-être un peu. Mais il s'est dit, je vais pas m'arrêter là. Avec la capacité élite, je vais rajouter la carte Stay on Target. Et la carte Stay on Target qui te dit que, lorsque tu révèles ta manœuvre, tu peux la modifier, à condition qu'elle est pour une autre manœuvre qui a la même vitesse. Si tu le fais, tu reçois un stress. Pour compléter son B-Wing, il a mis Fire Control System, système de commande de tir, et une torpille. L'idée qu'il avait, ce Johnny, en construisant son B-Wing, c'était de se dire « Et si je transformais le stress en avantage et non plus comme inconvénient ?» Là, son pilote lui permet de faire l'équivalent d'un focus avec son stress. Toutes les cartes qui te donnent un stress deviennent un avantage pour lui parce que ça devient un focus.
Mais tu vois, moi, de plus, Julien, excuse-moi de t'arrêter. Je pense que qu'est-ce que tu décris là, ça ressemble plus au créateur qui fait des combos, le Johnny Combo. Parce que l'artiste, moi je pense qu'il, puis on jase là, c'est qu'il va, exemple, il va prendre ton B-Wing avec Hera, parce que dans un des épisodes de Rebelle, Hera a pilote un A-Wing. Là, son deuxième vaisseau, ça va être un VCX-100, piloté par Chopper, parce que dans cet épisode-là, Chopper a piloté le vaisseau. Puis là, il va mettre Ezra dans l'attaque shuttle à côté. Puis là, quand tu vas jouer contre lui, là, il va vouloir te revivre un épisode de Rebelle. Tu comprends? Ou il va débarquer avec l'escadron de T-65 qui a fait exploser l'étoile noire. Tu sais, c'est comme quand
ça,
je joue à...
Ça, c'est...
Oui, excuse-moi.
Mais ça, c'est pas plus les Vortos, ça? Parce que c'est exactement le texte des Vortos, ça.
Les Vortos, c'est pas les collectionneurs?
Non, pas que.
quand j'avais décrit ça, quand je l'avais écrit, moi, je voyais, tu sais, quand on dit, là, il crée un escadron qui représente l'essence du pilote impérial Zeta, ben, il va débarquer avec sa liste que c'est tous des pilotes Zeta, dans différents vaisseaux, mais tous des Zeta. Puis là, il va vouloir jouer ça comme si, puis là, dans sa tête, il va jouer en même temps, peut-être qu'il y a vraiment un leader Zeta avec son bomber Zeta, puis là, il y a une mission dans sa tête, là, tu sais. Puis là, il va te faire vivre l'expérience de. Yeah, c'est ça, un escadron Zeta, mon gars, tu vas vivre de quoi? Je vais te terrasser dans la fureur de l'Empire. Tu vois, genre un peu, moi, c'est plus comme ça que je l'avais interprété.
Ouais, ouais. C'est absolument pas impossible. De toute façon, on s'entend que là, on n'est pas sur quelque chose de concret. Enfin,
non.
Dans le sens où on n'est pas sur du palpable.
Non. Puis ce Johnny-là, il ne cherche pas à gagner, il cherche à mettre de quoi de beau sur la table, puis à s'exprimer, puis à. Tu sais,
Et puis, c'est sujet à interprétation. Ah, on essaye de mieux le définir possible, mais. C'est clair que ce que tu avances, et tu vois, typiquement, on a lu les mêmes articles tous les deux.
Ouais.
Et on l'interprète un peu différemment, même si je pense que l'essence est la même pour toi et pour moi. On l'interprète légèrement différemment, mais c'est pas grave. C'est au final, ce qu'il faut juste savoir, c'est que lui, il veut juste te montrer comment on fait.
Ouais, c'est ça.
Comment on s'éclate.
C'est l'artiste.
C'est ça.
L'artiste.
Ouais.
La dernière catégorie des Johnny, c'est le Uber Johnny. C'est le. Lui, là. Il construit ses escadrons purement par entêtement. Il s'est donné comme mission de prouver que lui, il est capable de faire fonctionner ce que le consensus général ou ce que tout le monde considère comme impossible. Pour les Uber Johnny, aucun pilote ou aucune amélioration est trop mauvaise pour être utilisée. Okay? Il n'y a aucun archétype de lisse qui est impraticable. Fait que ça se peut jouer des. Comment est-ce qu'il s'appelle le petit vaisseau pas bon là? Les Psyche, c'est ça, hein? Petit vaisseau Scum là.
Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais.
Ben, il est tellement mauvais que je sais même pas son nom. Mais il est pas mauvais pour le Uber Johnny. Lui, il va s'entêter à créer une liste puis à gagner avec ça à tout prix. Pour lui, il n'y a rien qui est vraiment déclassé. Il n'y a pas de vaisseau d'amélioration tabou. Lui, il va jouer. Beau chèque là, ou n'importe quoi, que personne veut jouer, puis personne veut toucher que ça avec une pole de 10 pieds, lui, il va s'essayer, puis il va tout mettre son énergie puis sa concentration à faire marcher ça. Pour lui, c'est l'idée de réussir ce qui est considéré comme impossible qui va le motiver. Ils vivent pour démontrer qu'ils ont réussi là où tous les autres ont échoué. Moi, j'ai gagné un tournoi avec tel pilote que personne croit qu'il peut gagner. Exemple, Luke Skywalker. Moi, je vais gagner un tournoi avec Luke. Check bien ça, m'a fait revivre le T-65. Là, il se met ça dans la tête, là, puis là, oublie ça. Là. Lui, c'est ça qui le drive.
C'est un peu le. On a eu un finaliste, je ne sais pas si c'est ce mondial ou le mondial d'avant, qui est arrivé avec un Coran Horn.
Ah oui, c'est Nathan Heidi.
En finale.
Ouais.
Alors, je ne pense pas qu'il soit totalement Uber Johnny, mais c'est dans l'état d'esprit. Il y a un vaisseau. Quand tu en parlais avec les autres, c'est. Qu'est-ce que ce vaisseau fout là?
Ouais, ouais. Mais lui, c'est un
Comment
Spike. On va le revoir plus loin, là, mais lui et sa gang, c'est tous des Spikes. Mais on va en reparler.
Ouais,
mais oui, effectivement, il est arrivé de quoi changer un peu. Ouais. Fait que c'est pour eux que les concepteurs du jeu vont sortir des cartes complètement bizarres, OK? Des améliorations avec des déclencheurs multiples aussi, puis des coûts trop élevés. Puis ça va parler aux Uber Johnny qui vont voir ça. Ils vont se rendre compte que personne ne l'utilise parce que tout le monde pense que c'est mauvais. Puis ils vont se rentrer ça dans la tête, de vouloir jouer ça. Fait que tu vois des exemples de cartes, Julien, là, qui pourraient attirer un Uber Johnny.
Alors là, je vais vous sortir des cartes. Je suis sûr que vous ne vous souvenez même pas ce qu'elles font. On a Saturation Salvo.
Ça, c'est dans le nouveau Alpha Class, le nouveau le Gunboat. C'est une carte avec trop de texte encore. Là.
On a Boshek. Boshek, quand vous bumpez, vous pouvez tourner. Vous pouvez vous bumper vous-même. Enfin, c'est. Quand vous bumpez un vaisseau, vous devez modifier ça. Enfin, c'est des cartes, quand vous les lisez, vous êtes obligé de lire 3-4 fois le texte. Le général Hux, score to settle un peu en quelque sorte aussi, Cassian Andor, Body Rook, beaucoup de copilotes surtout.
Ouais, hein. Les exemples qu'on a sortis, mais Cassian Andor, c'est pas lui là que quand tu dois essayer de deviner ce que l'autre il fait pas pour pouvoir ajuster ta roulette à toi, tu sais, c'est comme quoi, qu'est-ce que c'est ça, ce niaisage là? Lance des déroules.
Oui, mais et pratiquement en fait tout, et je me demande si les cartes de conditions là qui sont maintenant la nouvelle mode chez, chez Fantasy Flight Games, c'est pas un petit peu aussi pour aller lorgner du côté de Uber Johnny, parce que finalement, les cartes de condition, à part I Show You the Dark Side, il y en a pas tant que ça qui ont été utilisées, qui sont régulièrement utilisées. On a peut-être, je sais pas, en tout cas, il y en a 3-4 qui sont sortis, et j'en joue, à part I Show You the Dark Side, Peut-être celle aussi avec le TIE Fighter capturé, là, qui pourrait
ouais,
aussi...
Ça, c'est Suppressive Fire.
Suppressive Fire, qui est de temps en temps utilisé, mais sinon, les autres cartes sont pas vraiment utilisées.
Ben, moi, celle-là qui me fait le plus bizarre, c'est la grue de récupération, là, c'est Scavenger Crane. Moi, je la comprends pas, celle-là. Il faut que tu réussisses à tuer un vaisseau à range 2, en dedans de 2, pour pouvoir bénéficier de ça. Mais c'est quoi les... Je trouve que c'est quelque chose qui arrive pas assez souvent, puis que ça prend de la place dans ta liste. Fait que moi, celle-là, ça me parle pas, puis je la comprends pas. Comme, je vois pas l'intérêt de cette carte-là. Mais probablement qu'un Uber Johnny, il voit ça, puis il se dit, moi, là, je vais récupérer ma torpille à tous les tours, tu sais, puis il capote, là.
Mais il y a quelqu'un qui était venu à la Ligue avec un escadron de, je crois qu'il avait quelque chose comme 5 Z95, avec des missiles et grue de récupération sur tout le monde. Et son idée, c'était... Je balance tous mes missiles, le vaisseau explose, et j'ai toutes mes grues de récupération qui s'activent en même temps. En fait, j'ai un vaisseau adverse qui pète, je récupère 5 missiles.
C'est pas fou, hein?
Mais... Non, ça a pas marché sur cette partie-là. Mais ouais. Quand j'ai vu la liste, j'ai fait « Ah, je vois le combo dans la tête et je fais 6 actives. Je suis mal. Je suis mal. »
Ouais. Une chance qu'il était sur des Z95. C'est l'avantage.
Donc voilà, c'est mais tu vois, vous voyez, c'est ce genre d'idée, quoi.
OK, mais attention, à noter que les Johnny, là, on revient à la catégorie des Johnny en général, sont pas limités à la phase de conception de l'escadron, hein. Que ça soit par le format du jeu, le style de jeu, ou même le choix des jetons ou de la carte d'or alternatif, le Johnny utilise plusieurs façons pour s'exprimer. Parce qu'oubliez pas, pour lui, c'est une façon de s'exprimer, là. Le point commun de toutes les Johnny, c'est la mission qu'ils vont s'investir eux-mêmes d'exprimer quelque chose à propos d'eux-mêmes. Je suis original, je suis capable, je suis différent. Puis là, c'est qu'est-ce qu'ils vont exprimer qui va varier énormément. Mais dans leur fort intérieur, c'est la même motivation. C'est regardez-moi tout le monde, regardez-moi, je suis différent, je veux attirer l'attention. C'est ça le Johnny à la base. Puis tu vois, moi, je pense que j'ai du Johnny dans le nez aussi. J'ai un gros aspect timide social, mais j'ai du Johnny aussi, pas tant l'artiste que peut-être un peu le créateur hors tempo. J'aime ça jouer des listes un peu différentes. Tu vois, comme ma liste avec deux Shadowcasters, ben c'est un peu ça, veux pas. C'est pas méta, ça marche, c'est rare, on n'en voit pas beaucoup. Fait que quand les mondes voient cette liste-là, ben ça me distingue un peu. T'sais. Fait que moi, je me reconnais là-dedans. Puis moi, j'aime pas ça jouer le méta. Fait que je me reconnais dans des listes hors tempo.
Je sais pas si toi, t'as un petit morceau de Johnny. J'ai un peu de Johnny dans l'idée où je me suis mis en tête de faire une liste avec un ou plusieurs taille agresseurs. À l'époque, il n'y avait pas de... Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de méta ou quoi que ce soit. Je voulais juste faire une liste avec un taille agresseur. Et du coup, j'ai construit autour. Donc, il y avait une partie... Je pense que j'ai un petit peu de Johnny. Alors, je ne sais pas exactement lequel... je ne pense pas de l'artiste, c'est certain. Je ne pense pas être leur tempo...
Et t'as du Uber dans le nez, toi. T'es quand même un peu entêté, là.
Ouais.
Tu veux réussir.
C'est ça. Donc, je pense que c'est plus du Johnny Uber, mais je pense que c'est la troisième catégorie qui est mon principal.
Puis encore là, c'est pas ton. Je pense pas que c'est ton dominant non plus.
Non, le dominant, c'est la troisième catégorie qui arrive.
Ces chamailleries sont absurdes. Seigneur Vador, je vous charge de découvrir la base des rebelles pendant que nous mettons l'étoile noire sur le pied de guerre. Puis ensuite, nous écraserons la rébellion aussi aisément qu'un insecte.
C'est le Spike qu'on va parler dans une seconde.
Collecte édition La Prairie, port d'attache de Millennium Condor, balado diffusion. Situé au 259 boulevard Tachereau, à La Prairie, plusieurs communautés sont présentes pour vous faire vivre des soirées et des événements. Magic the Gathering, Pokémon, Donjons et Dragons, échange de cartes de collection sportive et bien sûr X-Wing miniatures. Vous pouvez vous joindre à notre ligue ou simplement venir piloter des contractés avec nous les mardis soirs. Vous y trouverez également une panoplie de jeux de table, d'articles sportifs de collection et d'accessoires divers.
Ben, moi, quand j'entends Spike, là, je pense à un certain Sylvain qui a remporté la saison régulière de notre ligue.
Non,
mais attention, c'est pas négatif d'être un Spike, hein? Mon ami Sylvain, là, je le connais bien, c'est mon voisin, on pratique ensemble, tout ça. Mais Sylvain, il gère pas bien la défaite. Fait qu'il s'arrange pour pas en vivre trop. C'est ça, un Spike. Puis tu sais, je le connais, Sylvain, j'ai joué au hockey avec, puis tout ça, puis tu sais, je reconnais son profil à gauche, à droite, là. C'est ça, il gère pas bien la défaite, fait qu'il s'arrange pour pas la vivre. Le Spike, c'est le joueur compétitif. C'est le joueur sérieux, avec une attitude de « on joue pour gagner ». Il aime ça, gagner. Puis pour accomplir ça, les Spikes, ils vont jouer à fond le méta. Le méta, je vous le rappelle, c'est le « most effective tactic available ». Peu importe qu'est-ce que c'est, lui, c'est ça qu'il va jouer. Ils vont utiliser les listes des autres sans problème. Pour les Spikes, leur frisson du jeu, là, ça vient de l'adrénaline de la compétition. Ils adorent la stimulation qu'ils vont avoir quand ils vont jouer mieux ou avec plus de succès que son adversaire. Évidemment, sans oublier la gloire de la victoire. Hein. Les Spikes là, sont plus intéressés par la quantité de victoires que par la qualité. Lui, il s'en fout de gagner par 10 points tant qu'il a gagné. Puis il s'en fout d'avoir étiré au maximum le règlement dans le cadre légal, puis avoir profité de chacun de ces aspects-là, il a gagné. Lui, c'est pas grave. Lui, à la fin d'une partie, se sauver pendant 6 tours pour être sûr de gagner par 4 points de MOV, c'est bien correct. Il a gagné, c'est ça qu'il veut. Il va être plus intéressé par la quantité de victoires que par sa qualité. Lui, ça le dérange pas de gagner par 10 points. À la fin, c'est pas grave, il a gagné. Ça le dérange pas de se sauver pendant 6 tours à la fin de la partie parce qu'il gagne de 4 MOV, puis que quand le temps va finir, ben, il va avoir gagné. Il n'y a pas de remords non plus à étirer les règles au maximum dans le cadre légal pour dire ben, « j'ai profité de chacun des aspects que les règles me permettent, puis ça m'a permis de gagner ». Le Spike, s'il a joué 10 parties dans son tournoi, puis il en a gagné 9, puis qu'il a l'impression qu'il aurait dû gagner celle qu'il a perdue, ben, il s'en va à la maison de mauvaise humeur. Et c'est ça pour lui. Là. 9 victoires, là, c'est pas correct, parce que c'est pas assez, parce que la 10e, il aurait dû la gagner. Les développeurs fournissent beaucoup d'éléments pour les Spikes. Parce que contrairement aux cartes et aux pilotes d'amélioration pour les Timmy et les Johnny, les éléments pour les Spikes sont faciles à faire. Eux, ils jouent ce qui marche, hein, ils jouent ce qui fait gagner. Si les développeurs font quelque chose qui est assez bon, ben les Spikes vont le jouer. Fait que c'est facile pour eux autres de créer des trucs que les Spikes vont jouer. Ça a juste besoin d'être fort, ça a juste besoin d'être efficace. Les exemples de ça sont probants. Hein. Pas pour rien qu'on voit toujours les mêmes listes dans les tournois ou sensiblement les mêmes archétypes. Les gens qui font beaucoup, beaucoup de tournois, puis encore là, il ne faut pas généraliser, tout le monde n'est pas pareil, mais tout le monde qui fait des tournois veut gagner, veut pas son tournoi. Il y en a qui sont là pour différentes raisons, mais les hardcore, là, ils veulent gagner, ben ils prennent la liste qu'ils gagnent, puis ils s'en vont là pour gagner. Ben, c'est ça qu'on voit, tu sais. Fondamentalement, là, pourquoi il va jouer le Spike? C'est pour prouver quelque chose, principalement pour prouver comment il est bon. Le Spike voit la partie comme un défi mental, un casse-tête ou une énigme à résoudre par laquelle il va pouvoir définir et démontrer ses habiletés à lui. Hein? Fait que lui, il est face à un autre escadron. Ben lui, en avant de lui, il voit une énigme. Bon, comment je fais pour percer cet escadron-là? C'est quoi sa force? C'est quoi sa faiblesse? Par où je dois passer pour le détruire? C'est vraiment un casse-tête pour lui. C'est comme ça qu'il voit ça. Tu sais, quand tu écoutes d'autres podcasts en anglais et ils disent « j'ai résolu tel squad, j'ai brisé tel autre escadron ou tel archétype », ben dans sa tête, lui, c'est un casse-tête puis il l'a résolu. C'est dans la victoire qu'il va tirer le plus de plaisir parce que c'est ça sa motivation à lui. C'est d'utiliser le jeu pour démontrer de quoi il est capable. Toute autre chose que le succès est un échec pour lui parce que c'est en fonction de ce seul critère, la victoire, que lui va s'évaluer. Pour lui, là, la deuxième place, ben, tout bad, c'est le premier perdant. Il ne veut rien savoir de ça.
On comprend pourquoi ceux qu'on fait, les études, ils ont utilisé Spike et Pin, tu sais, ouais, comme terme pour le truc. Avec le résumé que tu fais, on sent la personne désagréable. Alors que ce n'est pas le cas
non,
du tout.
Non,
hein.
Mais non.
Ce n'est pas le cas du tout. On est en train d'exacerber des traits.
C'est des gens, on va dire, dédiés. Motivés, ouais, ils font ce qu'ils ont à faire pour que ça marche.
Voilà, puis c'est des gens qui vont vous faire une partie sérieuse, point. C'est ouais, comme ça. Mais c'est pas forcément des gens...
Ben non, on en a tous, puis on a tous un peu de Spike en nous aussi, là, tu sais.
Ah ben, c'est sûr qu'on préfère gagner que perdre la plupart du temps. Ouais. Hein.
Mais est-ce qu'on prend les moyens, c'est ça la question.
Voilà, c'est ça. Donc, comme pour les autres profils, le Spike, il a des sous-catégories. Ce qui sépare les sous-groupes, c'est comment le Spike a choisi de dominer son adversaire. Les différents spikes se concentrent sur différents aspects du jeu. Donc, la première catégorie de spikes, ça va être les innovateurs. C'est ce groupe, c'est pour les spikes qui se rapproche le plus de la sensibilité des Johnny. Mais attention, il faut noter que les spikes innovateurs, ils veulent gagner d'abord et avant tout.
Il ressent aucun besoin d'être artistique ou inutilement différent. Non, non, le Spike innovateur, lui, il est fier, il croit en sa capacité de juger les nouvelles habiletés ou améliorations, lui, il veut la win. Son but, c'est de trouver la nouvelle affaire qui va briser le jeu. Il veut être celui qui va trouver la prochaine liste trop forte, qui va être dans tous les tournois, et à laquelle on va peut-être donner son nom. C'est ça qui est important, parce que, comme le Johnny, il veut le crédit. C'est parce que le Spike est innovateur et très concentré à briser les nouvelles habiletés et améliorations qu'il passe beaucoup de temps à essayer d'apprendre, de comprendre les nuances, les mécaniques de jeu, les probabilités, les choses comme ça. Si quelque chose a été brisé avant, y a encore de grandes chances que les concepteurs vont moquer d'autres subtilités dans le jeu qui va permettre de le briser maintenant. Parce que ce sous-groupe veut comprendre comment les engrenages du jeu fonctionnent, ils sont généralement très intéressés par la théorie autour du jeu. Ils veulent l'étudier, le comprendre, maîtriser les choses comme les avantages, les utilités de chaque pilote, les vaisseaux, les améliorations. C'est des théoriciens purs. Parce que cette connaissance va être avantageuse et ça va les récompenser plus tard.
Ça me fait penser quand il y a un article d'une nouvelle vague qui sort. Puis là, il te présente, il va y avoir tel vaisseau, tel vaisseau, tel vaisseau. Puis là, il te montre 2 cartes sur 12, tu sais. Puis les autres, t'as du texte caché, t'es pas capable de lire c'est quoi. Puis là, à partir de ça, t'en as qui ont déjà pondu 4 puis 5 listes. T'sais. Eux, ils sont déjà en train de penser comment je vais me servir de ce vaisseau-là pour briser le jeu ou être le premier à sortir une liste gagnante avec ce vaisseau-là que personne va avoir utilisé encore. C'est à ça que ça me fait penser.
Tu vas aussi avoir des Johnny qui vont faire ça.
Ah ben oui, définitivement.
C'est là où la subtilité, la différence, va pas forcément être évidente à détecter chez les gens. En fait, ce qu'il faut qu'on trouve, ce qu'il faut réussir à se mettre en tête, c'est la personne, quand il va faire sa liste, c'est quoi son objectif? Si son objectif, c'est de rouler sur ses adversaires, de les écraser, d'en faire des petits morceaux et de battre tout le monde et de gagner tous les tournois, c'est un Spike. Ouais. Si son but, c'est de faire une liste avec un combo qui va s'activer, on sait pas trop comment, avec « Ah tiens, j'ai vécu cette situation, ça aurait été parfait contre, comme ça je vais le jouer que ça, comme ça si jamais... » Enfin, c'est un Johnny. Quel était son état d'esprit quand il a créé la liste? C'est pour ça que c'est quasiment impossible à savoir quand les gens postent leur
liste. Mais il va arriver qu'une liste un peu différente de Johnny aussi. Mais tu sais, l'innovateur ici, ça c'est le trait du Spike, c'est qu'il fait ce qu'il a à faire pour gagner. Lui, l'innovateur, il va étudier, il va aller lire les articles de stratégie, il va aller lire les critiques d'une carte bien, bien précise, tu sais. Puis là, il va tout connaître les critiques positives, négatives qui ont été faites sur tous les podcasts, sur tous les articles, sur tous les forums, dans Reddit, puis dans le forum de FFG. Puis quand le vaisseau va arriver ou qu'il va être disponible sur Vassal, bien lui, il connaît déjà les forces et les faiblesses de telle amélioration ou tel truc, ou quelle carte à éviter ou quelle carte à absolument mettre avec une carte plus vieille ou une amélioration de v'là 2 vagues. C'est ça l'innovateur. T'sais. Il a déjà fait sa recherche avant que ça commence, fait qu'il veut être le premier.
Absolument. Et sinon, la deuxième catégorie...
Oui, après ça, on a les ajusteurs. Bon, les ajusteurs, c'est en anglais, c'est les fine-tuning. Hein. C'est ceux-là qui font les petits ajustements fins là, à la fin. Imagine-toi que tu es en train d'ajuster un moteur de course là, puis tu cherches à avoir un 1.5 HP de plus. Là, les petits tours de tournevis que tu vas donner. Là. Fait que ce sous-groupe-là de Spike, eux, ils n'essayent pas d'innover. Ils laissent ça aux innovateurs. Le Spike ajusteur, lui, ce qu'il veut... En fait, lui, c'est la prochaine étape. Une fois que la liste est produite, est connue, est jouée, là, le Spike ajusteur va arriver puis il va prendre la liste dominante. Et en fait, il va essayer de dominer avec ça, avec ses propres ajustements, qui vont être très, très, très spécifiques à une liste qui existe déjà. C'est le type de joueur qui cherche à maximiser les plus et les moins des habiletés quand tu joues à un jeu de rôle. Tu sais, tu joues à Donjon Dragon, là, mais lui, là, il va pas mettre aucun point d'habilité dans les habilités qui servent pas. Lui, du balance, il n'y en a pas de besoin, puis du gather information, il veut rien savoir de ça. Il met tout dans ses plus d'esquive puis d'attaque. T'sais. Fait que ça va être la même chose ici. Là. Il va maximiser sa liste. Dans toutes les habiletés qu'ils vont choisir, là, ils vont avoir été maximisées pour un effet maximum. C'est un groupe de joueurs, là, ils cherchent constamment à presser le citron au maximum pour aller chercher la dernière goutte d'avantage possible avec les ressources qu'il a en main dans son escadron. Ça inclut aussi là, quand il va jouer, là, il la conçoit, là, mais il a pensé que quand il va la jouer, il a besoin de faire des virages 3 secs, qu'est-ce qu'on va appeler c'est pas un bank, là, mais juste un turn, un virage dur, là, whatever. Fait que lui, il sait que dans sa liste, pour maximiser l'effet de telle amélioration, il a besoin de faire des virages 3. constamment. C'est ça un ajusteur, là. Pour aller chercher le maximum de son amélioration, il doit prendre telle action. Fait que le Spike ajusteur, il va utiliser son expertise pour comprendre les choses qui vont optimiser son escadron. Puis là, il va aller chercher de la statistique avancée un peu. Le nombre d'utilisations de son amélioration versus le coût. Pour deux points, je vais pouvoir l'utiliser tant de fois. Le nombre d'utilisations potentielles versus le nombre de tours moyens joués dans une partie. Sur les autres balados de diffusion américains, là, c'est la grosse mode. Ils ont fait des études à savoir une partie, ça dure combien de temps en moyenne. Mais la moyenne, c'est 11 rondes, 11 tours une partie que ça dure. Un petit peu plus, un petit peu moins, dépendamment. Tu sais, 11 tours, puis toi, tu as une habilité que tu sais qu'elle ne te servira pas avant le 3e, 4e tour. Ça va te prendre un tour pour aller te replacer puis la reprendre. Bien, ça ne te donne rien d'optimiser ton escadron pour être capable de la prendre 6 fois. Parce qu'au maximum, tu vas t'en servir 3 fois. Fait que là, lui, il va avoir considéré ça dans le choix de son amélioration. Après ça, le nombre possible d'attaques modifiées, il va essayer de voir ça. Le nombre possible d'attaques modifiées par vaisseau, tu sais, ou de modifier deux fois par vaisseau. Bon, combien de fois je vais être capable d'avoir mon acquisition de cible et mon focus? OK, je vais être capable de l'avoir tant de fois, un tour sur deux, tac, tac, tac. Lui, il a pensé à ça. Puis il va faire le même exercice versus les dés de défense de son adversaire, qui lui va avoir, être capable de modifier ou de minimiser. Il va aller chercher les statistiques de probabilité de toucher. Tu sais, c'est facile d'aller chercher ça, les mathématiques d'X-Wing, de dire, OK, si j'ai 3 dés rouges avec un focus contre 2 dés verts avec un jeton d'évasion, whatever, tu as des statistiques, des pourcentages de toucher. Ben lui, il va aller chercher tout ça.
Quand tu te retrouves sur un gros tournoi, genre un national, un machin, si tu joues contre un mec où, à tous les tours, tous ses dés d'attaque touchent, c'est pas forcément ses dés le problème. C'est peut-être que le mec, c'est un spike ajusteur et que le mec, il a Fire Control System, Focus, Fire Control System, Focus, et tu te retrouves du coup à tous les tours, ouais, devoir éviter 3, 4 hits, tout le temps. Si ça arrive une fois, deux fois, c'est peut-être les dés, ça peut être la chance, ça peut arriver sur une partie. Mais posez-vous la question si le mec en face, il a pas tout simplement juste tous les modificateurs possibles pour que d'un point de vue probabilité, ça soit impossible qu'il n'ait pas au moins 3 des 4 dés qui touchent.
Lui aussi, il va calculer sa liste, le ratio de MOV par vaisseau qu'il va perdre. Exemple, tu sais, moi, ma liste de 2 Shadowcasters, je sais que je perds beaucoup d'MOV. Ben ça, un Spike, il ne va jamais jouer ça parce que c'est pas payant. Tu donnes trop de points à l'adversaire parce que sur le classement, à la fin, pour une fiche égale, ben tu vas te retrouver en bas de la braquette. Lui, c'est pas ça qu'il veut. Il veut être en haut de la braquette. Fait qu'il jouera pas des vaisseaux qui donnent du MOV à l'adversaire.
Il jouera un Skurg, par exemple.
Exact.
Il y a un Skurg qui a 10 points de vie. Et tant que l'adversaire aura pas mis le 10e point de vie sur ton Skurg,
ça donne pas de points.
Il a 0 points. Le Skurg, c'est le vaisseau des spikes, déjà de base, mais des spikes ajusteurs parce que ça a 10 points de vie. Tant que le dernier point de vie est pas tombé, il n'y a pas de MOV pour, ouais, l'adversaire. C'est ça, c'est ce genre de vaisseau-là qu'il cherche.
Lui va même aller jusqu'à regarder le nombre d'actions par vaisseau par tour. Bon, à toutes les tours, je suis capable d'avoir 3 actions parce que j'en ai une gratuite, j'ai un push de limite, j'ai ça. Puis mon adversaire, en moyenne, est capable d'en faire 2. J'ai un avantage d'une action par tour par vaisseau. J'ai l'avantage, OK, j'y vais comme ça. Il va être aussi en mesure de savoir à quel tour va être sa première attaque, combien de fois par partie il va pouvoir attaquer en empêchant l'adversaire d'attaquer, etc. C'est l'équivalent des statistiques avancées là, dans le sport professionnel. Tu sais, au baseball, là, on est capable de dire, OK, un frappeur gaucher, quand le soleil est à telle place, puis il y a un nuage à gauche, puis qu'il y a une fille habillée en bleu dans les estrades à droite, ça fait, il est capable de frapper pour 400. Tu sais. C'est l'équivalent de ça. Fait que le spike ajusteur, là, il va profiter, le spike innovateur va profiter de l'élément de surprise, alors que le spike ajusteur a besoin de gagner ses parties en étant plus efficient, pas efficace, attention, mais efficient. Différence entre l'efficacité et l'efficience. En efficacité, je me donne un objectif puis je l'atteins, j'ai été efficace, j'ai réussi à atteindre mon objectif. L'efficience, ça va être d'atteindre ce même objectif-là avec un minimum de ressources et dans un minimum de temps. En production là, industrielle, on dirait, OK, j'ai besoin de 4 travailleurs pour faire cet équipement-là en une semaine. L'équipe d'ingénierie qui réussit à faire ce même équipement-là avec 3 travailleurs en 4 jours plutôt que 5 est beaucoup plus efficient pour le même résultat du même équipement produit au bout. Donc, lui, c'est ça qu'il va faire. Donc, il va prendre la liste qui existe déjà, qui est déjà prouvée, que tout le monde joue, puis là, il va réanalyser chacune des composantes pour aller maximiser. Donc, il va dire, oh, cet élément-là, ou cette amélioration-là coûte 3 points, elle fait ça, je vais pouvoir l'utiliser tant de fois, mais si je mets celle-là ici qui me donne, qui coûte juste 2 points, qui va être un petit peu plus efficace, ça va me rajouter un point sur le total de ma liste, donc je vais avoir un point de plus pour aller chercher l'initiative. J'en ai de besoin parce que toutes mes pilot skills ou mes talents de pilote, c'est des 9. Je veux être capable d'avoir l'initiative. Vous voyez, c'est ça qu'il va faire l'ajusteur. Il va prendre la liste efficace, puis il va la rendre encore plus efficace. Mais probablement qu'il y a juste lui qui est capable de la jouer parce que c'est lui qui connaît les éléments qu'il a ajustés dedans. Après ça, on tombe à le spike analyst. Okay? Les spikes, ils retirent le plus grand plaisir en prouvant quelque chose à par leur victoire. Donc, ce prochain sous-groupe-là collecte aussi de l'information, comme ceux-là d'avant, mais pour en tirer un autre type d'avantage. L'analyste, il va se concentrer sur le méta. Qu'est-ce qui est perçu comme le plus fort? Comme notre ajusteur juste avant, il regardait c'était quoi qui était plus fort. Mais lui, il regarde l'analyste, il regarde qu'est-ce qui est plus fort en ce moment. Puis là, il va planifier sa victoire en pensant à la meilleure façon de battre ce qui est le bon présentement. Lui, il planifie pas sa victoire en disant « Voici le meilleur escadron possible. » Tu sais, on dit l'expression, c'est dans un vacuum. Là, ça veut dire « OK, cet escadron-là, il a des outils pour faire face à ça. Il donne du stress, il a un petit peu de défense, il a une bonne attaque, il est bien équilibré. C'est efficace contre à peu près n'importe quoi, n'importe, ainsi de suite. » Lui, c'est pas ça qu'il fait. Lui, il fait ça en ayant un escadron optimisé pour l'environnement particulier ou l'archétype le plus présent. Donc, s'il sait que le méta présentement, c'est des bombardiers Skurg H6, bien, il va monter sa liste en fonction de tout ça. Donc, il va comprendre chaque liste, archétype populaire et ses faiblesses. Donc, si tu es capable de comprendre ce qui est joué, tu vas être capable de le battre. C'est comme ça qu'il pense, lui. Fait que lui, il ne joue pas le méta, il joue l'anti-méta. Lui, il va prendre son escadron puis il va jouer avec. Hein. Il va faire un peu comme l'ajusteur. Mais lui, c'est pour optimiser en fonction de ce qu'est-ce qu'il s'attend à voir en face de lui. En plus, du moins dans la version du spike de tournoi, là, oui, parce qu'on retrouve des spikes ailleurs que dans les tournois, il va être très concentré sur le méta local. Lui, il va connaître qu'est-ce qui se joue plus dans une région, dans un type d'événement ou dans un magasin par rapport à un autre. Lui, il va avoir fait cette recherche-là de dire « Bon, là, je m'en vais en Outaouais. Qu'est-ce qui se joue en Outaouais? » Puis là, il va faire sa liste en fonction de ça. Puis pour être capable d'optimiser sa liste, il doit savoir contre quoi il va jouer. Il a besoin de savoir l'expérience des joueurs aussi ou le type de joueur local ou ce qui s'en va. Il a besoin de connaître c'est qui le champion local. Je l'ai déjà rencontré. Je sais qu'il a joué ça quand il a gagné tel championnat. Puis il va aussi vouloir savoir qu'est-ce qu'il a gagné dans ce coin-là dernièrement. Puis là, il va aller trouver ça sur List Juggler.
Pour vraiment comprendre la différence, le Spike Ajusteur, il va prendre une liste de méta qui va optimiser. Le Spike Analyste, il va prendre une liste de méta qui va contrer. Exact. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va jouer la liste de méta, l'autre qui va jouer
le
némésis de la
c'est
liste de méta. Le truc oui. qui va venir casser.
Jeu dangereux, ça.
Donc,
hein.
C'est complètement... c'est dangereux, absolument. L'analyste va se dire, moi, je veux gagner, je vais jouer contre Bruno. Je sais que Bruno, il joue deux Shadowcaster. Comment je casse deux Shadowcaster? Je fais ça, ok. C'est la liste que je joue parce que je joue contre Bruno et qui joue de Shadowcaster.
Tu sais, on est allé au national. Les gens qui se sont vraiment... mettons l'analyste, là, comme ça. Lui, il a regardé c'est quoi le méta qui s'est joué dans toute la série des Open avant, dans les championnats nationaux avant. Donc là, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Nim Miranda, qu'il y avait beaucoup de Miranda Dengar, qu'il y avait beaucoup de, mettons, des trois Jumpmasters. Fait que là, lui, il a préparé sa liste en fonction de jouer contre des escadrons, probablement, qui n'ont pas beaucoup de défense.
C'est certain. Je te propose qu'on passe à la dernière catégorie. C'est celle qui a le nom le plus cool. Les Nuts and Bolts. les crinqués. Donc ça, c'est toujours des spikes. Mais on va dire que c'est un petit peu la crème de la crème des spikes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont franchi la dernière frontière. Ils ne sont plus dans l'innovation. Ils ne sont plus dans l'ajustement. Ils ne sont plus dans l'adaptation. Non, lui, le crinqué, il se concentre sur ses énergies à perfectionner sur son propre jeu. Lui, il considère qu'ultimement, la clé de la victoire, ça se retrouve dans un jeu sans erreur, sans surprise, un jeu parfait. Donc, le crinqué, lui, ce qu'il passe beaucoup de temps à faire, c'est l'introspection. C'est-à-dire, il va réfléchir à comment il a joué, il va essayer de trouver ses erreurs, comprendre ses erreurs, comment je les améliore. C'est à cause de cette obsession qu'il a que le crinqué, il a tendance à consacrer beaucoup de temps à des formats alternatifs ou à des contextes modifiés parce que ça lui donne une chance de s'améliorer sur différents aspects. C'est le genre de joueur qui va placer plein d'astéroïdes sur la map et qui va passer toute l'après-midi à déplacer son vaisseau à éviter les astéroïdes. Parce qu'il faut qu'il s'entraîne à éviter les astéroïdes. tous ces aspects
parce
du
que
jeu.
Lui, dans le
parce
fond,
que pour lui,
il considère qu'il a déjà la bonne liste, il l'a déjà fait au maximum, est déjà prêt pour jouer contre le méta. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est ça, c'est pratiquer à la perfection. Il va, tu sais, lui, il va se préparer 2-3 premiers tours. Si j'arrive contre tel type de liste, je vais jouer cette entrée-là. Si je joue contre tel autre type de liste, par contre, ben là, je vais avoir telle ouverture. Fait que lui, il arrive avec un playbook, là. Il sait où il s'en va.
Ouais. Techniquement, on pourrait, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un ordinateur. Un ordinateur qui jouerait à X-Wing, un ordinateur avec une programmation et toutes les règles en tête qui jouerait le plus parfaitement à X-Wing, ben le nuts and bolts, c'est celui qui va chercher à atteindre ce niveau de précision. Si je fais pas d'erreur, si j'ai tout prévu, si je joue le jeu parfait, je ne peux pas perdre.
La chose la plus importante à comprendre sur les spikes, c'est que pour eux, X-Wing, c'est une façon de se tester eux-mêmes. En tant que tel, leur plaisir vient de la constatation et la démonstration de leur propre progrès. Pour la plupart des spikes, ça se mesure en victoire, mais il y en a qui mesurent leur progrès selon d'autres critères. Par exemple, certains vont se mesurer pas en fonction du nombre de victoires ou de défaites, mais en fonction de la perfection de leur jeu durant la partie. Les autres, ils vont se dire « Ok, j'ai pas fait d'erreur, ça c'est bon. J'ai pas passé d'astéroïde, ça c'est bon. J'ai pas fait d'attaque, pas modifié, ça c'est bon. J'ai toujours eu mon jeton de défense, d'évasion, ça c'est bon. » Fait que là, il est content parce qu'il remplit les 4-5 critères qu'il s'est donné qui va caractériser un bon jeu. Puis un point très important aussi à considérer est que le spike, il ne se limite pas aux ligues ou aux compétitions, puis qui n'est pas nécessairement bon non plus. Il y a des spikes qui jouent décontractés. Il y a aussi des spikes qui vont vraiment être poches. Tu sais, être un spike, là, ça veut dire être déterminé en fonction de pourquoi tu joues. Être un spike, c'est ça. C'est déterminé en fonction de pourquoi tu joues. Pas en fonction de ton talent ou de où tu joues. Un spike motivé, là, qui joue casual, mais qui est un peu crinqué, ben, il va jouer casual, mais il va jouer très bien casual. On comprend? Il ne fera pas d'erreur, il ne passera plus ses rushs. Un spike qui est un innovateur, mettons, ou un ajusteur qui va arriver dans une ligue d'accomplissement, ben là, il va regarder c'est quoi les éléments d'accomplissement. Je dois jouer un Hawk 290 avec Jan Ors. Ben là, écoute-moi, il va t'optimiser, Johan, là, comme ça se peut pas. Là. Ça va être la meilleure liste de Johan au monde. C'est ça qui va faire un spike. Puis il ne sera pas meilleur pour ça, tu sais. Pour trouver les escadrons, les pilotes et les admirations qui vont allumer le spike, on a juste à aller sur List Juggler, dans le fond, hein, dans la section Meta Analyzer. Puis ça va dire quel pilote, quel type de vaisseau, quelle amélioration, quel archétype de liste sont les plus utilisés. Puis ça, en plus de ça, ça va te donner les ratios de victoire, les tournois majeurs qui ont été gagnés avec cet élément-là. Ben, c'est ça que les spikes ils vont faire. Puis ça nous amène à la prochaine catégorie, qui est un peu un mélange de tout ça, hein, c'est les hybrides. Puis dans le fond, on est tous un peu des hybrides, parce que moi, j'ai du spike aussi un petit peu, j'aime ça gagner, j'aime ça me pratiquer. Tu sais, j'ai des petits traits de crinqué, mais je pense qu'à la base, je reste un Timmy avec un Johnny, Uber, puis un petit peu de crinqué dans le nez. Ça serait ça mon profil à moi, je serais un hybride comme ça.
Et c'est certain que trouver un profil pur, ça doit être extrêmement rare. J'ai du mal à imaginer une personne qui soit seulement un seul de ces cas-là. Donc parmi les hybrides, tu vas avoir par exemple Timmy Johnny ou Johnny Timmy, suivant lequel est le plus important. Donc les Timmy Johnny, c'est ceux qui aiment les gros effets cool, qui aiment le côté créatif du jeu, c'est les habiletés, les améliorations avec des gros effets, les synergies relativement bien en combo qui les attirent. Ils veulent écraser leurs adversaires, mais avec du style, avec la classe. C'est je t'ai roulé dessus, mais avec une Ferrari.
Ils vont un peu plus loin dans le deuxième article sur cet hybride-là.
Ouais, dans le deuxième article, les Timmy Johnny, donc toujours cet hybride-là, Timmy Johnny, lui, il veut vivre une expérience. Le Johnny veut exprimer quelque chose, le Timmy veut vivre une expérience, et les deux ensemble, on obtient quelqu'un qui veut montrer aux autres comment il peut avoir du plaisir. Il veut avoir du plaisir, mais il aimerait être différent ou innovateur dans sa façon d'avoir du plaisir. Il aime faire des listes pour des formats alternatifs ou spécifiques à un scénario. Ouais.
Tu vas avoir aussi le Timmy Spike, donc, ou le Spike Timmy. Ça, c'est le Timmy Spike, lui, il veut gagner, mais il embrasse son côté axé sur le plaisir. Quand il choisit sa liste, il choisit toujours une liste gagnante qui comporte des gros effets ou beaucoup de dés rouges. Puis là, quand ils ont revisité l'article, ils sont allés un petit peu plus loin, ils ont dit que le Timmy Spike, ou le Spike Timmy, lui, il est déchiré, OK? Il veut gagner. Mais oui, il veut aussi avoir du plaisir. Fait qu'il y a comme une dualité, là. Pour se contenter, il va chercher des listes gagnantes, un peu comme on a dit tantôt, qui va présenter le plus de bangs possible, des booms, des bangs, des pow, puis qui va avoir de l'air plaisante à jouer. Fait qu'en regardant la liste, oh, ça a l'air drôle, ça a l'air le fun. C'est le gars qui se casse la tête pour absolument incorporer un pilote ou un vaisseau spécifique dans sa liste. Pas un truc vraiment nul, là, parce que ok, je me force absolument pour jouer le dernier des Hawk 290 qu'on n'a jamais entendu parler. Mais si ça fait du sens, là, ben le Timmy Spike, il va se charger de faire marcher ça dans sa liste.
Alors après, il nous reste le troisième qui est le Johnny Spike, ou le Spike Johnny. Donc le Johnny Spike, lui, il veut gagner, mais seulement selon ses termes à lui. Donc les formats alternatifs sont remplis de Johnny Spike. Ils font de grands efforts pour être en mesure de gagner avec des listes originales. Même quand ils doivent utiliser une liste préfaite, ils vont toujours l'ajuster pour lui donner leur propre saveur, sa propre saveur. Et il y a eu un petit complément dans l'article qui a suivi, qui est que le Johnny Spike veut gagner. Il veut gagner avec du style. Il est constructeur d'escadrons obscurs, c'est le gars qui arrive avec une liste complètement éclatée, mais qui pourrait marcher. Il prend les choses en charge et joue ce que les autres n'osent pas. Il est là pour prouver qu'on peut gagner en se donnant des limites imposées par l'innovation.
Donc, il se force à utiliser des affaires par rapport. C'est un peu ça que ça dit, tu sais. Sa limite imposée par l'innovation, c'est de dire « je prends pas des choses qui existent déjà ». Ensuite de ça, on a, bien évidemment, on a les trois ensemble. Okay? Le Timmy, Johnny, Spike. C'est le all-in-one. Le Timmy, Johnny, Spike veut jouer des gros effets, veut des listes différentes, et en plus, il veut gagner le plus possible. Bien évidemment, c'est un type qui est rare. Hein? Peu de joueurs sont attirés dans les trois directions. Les concepteurs, ils s'en occupent pas bien d'eux autres. Puis quand on a, après ça, poussé un peu plus loin dans l'article revisité, on dit que le Timmy Johnny Spike, il veut tout. Il veut le beurre, puis il veut l'argent du beurre, OK? Il veut prouver qu'il peut gagner en étant innovateur et avoir un plaisir exubérant en même temps. Puis c'est rare qu'un joueur est en plein centre des trois profils. Okay? On a tous des dominants puis des récessifs. Les joueurs qui ont les trois profils ont quand même généralement un ou deux profils plus dominants, mais ça existe, OK? C'est l'équivalent des groupes sanguins des donneurs universels. Là, ils sont capables de donner à tout le monde. Il est très, très rare, celui-là. Puis d'après moi, il doit fluctuer dans le temps aussi. Il y a des journées là, ou des périodes dans ta vie où ce que tu dis là, je veux gagner absolument. Puis d'autres moments dans ta vie où tu dis, ben je veux m'exprimer, puis tu fais des poèmes, puis ainsi de suite.
C'est ça.
C'est ça. Le commentaire à Julien est « c'est ça ».
C'est ça. C'est ça. Mais, en effet.
Oui, OK. Puis, super intéressant, après ça, dans l'article revisité, ils sont arrivés avec un quatrième type de joueur.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous ait laissé passer. Je nous voyais déjà fusiller.
La force. Grâce à la force, on arrive à influencer les esprits faibles.
Ouais, le surtout Vartos. Si tu veux savoir quel est mon principal.
Ah oui, excuse-moi, Julien, vas-y.
Quel est mon principal à moi? Ça, c'est sûr et certain. C'est celui que tu vas montrer là.
Le Vortos?
C'est le quatrième.
Oui, je pense oui. Sais-tu quoi? Oui, je repense là, puis effectivement, je te reconnais dans ça.
Je suis certain que mon principal, c'est le Vortos.
OK, le Vortos. En partant, le Vortos, là, ça veut rien dire. C'est le nom du personnage de Donjon Dragon que le gars de la R&D, il jouait, puis c'est comme ça qu'ils l'ont reconnu entre eux autres quand ils ont fait le réunion de production puis ainsi de suite. Là, c'était un elfe, le 19e niveau, qui était pur et machin. Là, fait qu'ils l'ont appelé le Vortos. Donc, fait que le Vortos, c'est le gars, ou la fille évidemment, qui a commencé à acheter des vaisseaux d'X-Wing parce qu'il les trouvait beaux. Parce que c'était un fan de Star Wars à la base, puis qui a commencé à apprendre à jouer à X-Wing parce que son personnage préféré est arrivé dans le jeu. Fait que le gars, il trippe sur Dengar pour X raisons. Puis là, ils sortent le Punishing One. Il capote, il en achète trois, puis il apprend à jouer avec le Punishing One. Il y a beaucoup de Vortos autour de nous. Il y en a partout. Puis on a tout un peu de Vortos. Moi, quand je crée mes listes, ben c'est mon Vortos qui parle parce que j'aime ça, jouer des listes thématiques en fonction de personnages, de romans que je suis en train de lire, exemple. Certains, ils collectionnent les vaisseaux sans jouer. D'autres, ils vont triper à faire signer les artistes qui font l'art sur les cartes. Certains vont pas lire le flavor text ou tu sais le texte qui explique que telle compagnie a créé tel vaisseau puis que c'est ainsi de suite avant d'avoir lu le film ou de vu le film ou lu le roman pour être certain de pas se faire dévoiler de punch pas se faire donner d'informations critiques tu sais les Vortos ils comprennent que X-Wing peut être plaisant même quand tu y joues pas. Où est la place du Vortos dans tout ça là, hein? On le retrouve où? Ben c'est simple, il est nulle part. Pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce qu'il n'a pas un profil psychographique comme tel. Il est défini Il est défini par ce qui l'intéresse, pas par le pourquoi il joue. C'est pas le jeu de miniature, stratégie ou la gloire de la victoire qui l'attire, c'est le sujet. Lui, il trippe Star Wars. Puis X-Wing, c'est un jeu de Star Wars, donc ça l'attire. C'est ça, c'est la thématique, lui, qui l'amène dans le jeu. Puis c'est lui, le gars. Lui, là, il va avoir un peu de Johnny, puis de beaucoup de Timmy, d'après moi, en récessif, parce que il est là pour avoir du fun dans une thématique de Star Wars. C'est ce genre de gars qui va arriver, puis il va avoir mis son armure de clone pour jouer une partie d'X-Wing, tu comprends? C'est comme ça, là. Lui, il trippe Star Wars.
Pour y avoir pensé, c'est un peu galère.
Oui, ça marche pas, hein, mon espèce de Vortos. Ça veut dire qu'il y a des Timmy Vortos qui vont adorer réciter le flavor text ou une réplique bien connue d'un film. Tu sais, quand que la chance, ça se présente, là, ils vont dire « Don't tell me the odds » ou « C'est quoi les chances de passer dans le champ d'astéroïdes » ou « J'ai un mauvais feeling à propos de ceci ». Tu sais, ces gars-là, ils vont tous dire ça quand c'est le temps. Là, puis ils vont répéter les phrases, puis ainsi de suite, parce qu'ils trippent dans le jeu. Puis moi, j'ai un petit peu de ça parce que j'adore lire le flavor text des cartes. Tu sais, surtout en français, parce que c'est mal traduit, puis c'est tout croche, puis tu comprends rien. Mais exemple, celui-là du K-Wing, tu sais, ça parle du slam, puis un paquet d'affaires. Moi, j'aime ça lire ça. Il y a aussi des Johnny Vortos, donc, qui se promènent avec des escadrons hyper thématiques. Comme je disais tantôt, un peu tantôt, là. Il va y avoir Kanan comme pilote dans le Ghost, il va y avoir Zeb après ça, et puis Ezra dans l'attaque Shuttle, puis Hera dans le B-Wing pour recréer la scène là, de l'épisode X de Rebelle, parce qu'il veut revivre cette scène-là, fait qu'il refait l'escadron de la scène, puis là, il trippe, tu sais. Il s'en fout de gagner ou de perdre. Tant qu'il y a du fun puis qu'il a vécu sa thématique, il est content. Puis après ça, tu vas voir le Spike Vortos. Ça, c'est le gars qui a lu tous les romans, qui connaît tout l'univers étendu mieux que sa maison chez eux. Là. Fait que lui, c'est un Spike, mais pas dans la victoire. C'est un Spike dans la connaissance de l'univers. Il connaît tout, il sait tout. Tu peux pas y arriver et dire une niaiserie là, que l'hyperpropulsion, ça s'enclenche après telle vitesse puis que tu peux faire un virage. Non, non, non. L'hyperpropulsion, ça marche comme ça, puis comme ça, puis comme ça. C'est tout. OK? C'est comme ça que ça marche. Fait que c'est ça, le Spike Vortos. Fait que là, lui, il va arriver, puis il va regarder les cartes d'amélioration, puis il va dire, ça se peut pas, ça. C'est pas de même dans le film. T'sais, ou c'est pas de même dans l'univers étendu. Puis tel personnage, là,
ouais,
il va pas
tu,
être là.
Tu peux pas mettre cette amélioration parce qu'elle a été faite avant après ce vaisseau.
Exact, c'est
et
ça.
Et donc, tu peux pas faire ce vaisseau. Et tu peux pas faire ce vaisseau. Et puis ça n'a aucun sens de mettre ce copilote avec ce pilote. Ils sont pas dans la même époque. Et puis,
ah oui,
bah,
c'est
ce genre de situation-là.
Oui. Mais là, on arrête aujourd'hui parce qu'il y a plein d'articles aussi sur les Vortos puis ses amis. Fait que ça, c'est une autre branche complètement. Puis ça s'applique moins à notre thématique, à nous autres, je trouve. Là. Le flavor fan là, ou le fanatique de saveur, si on veut. Là. Notre tripeux de Star Wars, c'est notre Vortos, mais on va le retrouver dans toutes nos autres catégories. Puis ça veut pas, ça s'éloigne un peu du jeu comme tel. Fait que je pense qu'on arrête ça là aujourd'hui avec le Vortos, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Surtout de savoir que mon co-animateur est un Vortos.
Oui, ça c'est certain. C'est certain. Je suis absolument pas le genre de mec qui s'est fait une armure de pilote taille First Order et qui depuis s'est mis en tête de jouer le plus souvent possible les First Order.
Non, non, non.
Non, c'est pas du tout ça, c'est pas bon genre. Déconne pas. Hein. Les Vortos, c'est aussi ceux qui vont acheter les vaisseaux pour les collectionner.
Exact.
Simplement.
Parce qu'ils sont très beaux. Hein,
combien de fois on entend les gens faire je sais qu'il est nul ce vaisseau, mais je l'ai acheté pour la collecte.
Exact.
Il est chouette quand même. Hein.
Ah oui.
Voilà,
c'est
vous avez un peu de Vortos qui vient de passer là.
Fait que c'est ça. Voilà pour les profils que les concepteurs se basent ou s'inspirent pour créer les éléments du jeu. Évidemment, là, comme on disait tantôt, je pense qu'on peut reconnaître les profils des concepteurs en fonction des vagues, là, parce que tu retrouves ces éléments-là. Mais il faut être bien conscient que ces profils s'appliquent à la motivation du joueur et non au format auquel il va jouer. Les Timmy vont participer aussi à des tournois, les Spike vont jouer des missions dans des formats alternatifs et ainsi de suite. Quelque chose à ajouter là-dessus, Julien?
Oui, je pense que c'est assez rare de trouver des profils purs, dans le sens où il se trouve qu'il n'y a qu'un seul profil, etc. Je pense aussi que le profil peut changer en fonction de la situation. Je pense par exemple au Spike. On se dit que le Spike, il veut gagner à tout prix. Mais un Spike qui joue contre son fils, je pense qu'il n'aurait aucun problème à laisser gagner son fils ou à perdre contre son fils juste pour le plaisir de voir son fils gagner contre lui. Donc je pense que c'est pas des boîtes fermées, hermétiques, c'est vraiment modulaire. On est dans la psychologie, là, on est dans l'être des gens. Faut pas juste essayer de mettre les gens dans des boîtes,
ben non,
faut juste s'inspirer de ce qu'il dit.
On jase. Fait qu'en conclusion, là, tout ce long monologue-là, ou duologue, appelle ça comme tu veux, c'est juste pour dire que si vous aimez gagner ou que vous préférez démembrer vos adversaires avec des gros effets, beaucoup de dés rouges, plus de dés rouges que nécessaire, vous êtes un Timmy. Si vous préférez trouver les synergies qui sont souvent ignorées et laissées de côté, et que vous êtes satisfait parce que votre escadron peut faire ceci et ce combo, même si c'est juste deux fois dans tout votre tournoi de 6 rondes, vous êtes un Johnny. Si vous pensez que le jeu de X-Wing est construit autour de la victoire et dans le seul but de la victoire, vous vous foutez de comment vous gagnez, votre liste préférée est la liste qui a le plus de succès sur le list Jugger aujourd'hui, ben vous assumez très bien le fait que vous êtes un Spike.
De mon côté, si vous êtes encore là, si vous nous entendez encore, déjà je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et je voulais terminer en donnant un avis un peu personnel sur ce qui vient d'être dit durant cet épisode, et je vais peut-être un petit peu déborder sur juste l'X-Wing.
C'est pas grave, je vais le couper au montage.
Donc là, voilà, en espérant que Bruno me coupe pas au montage. En ce moment, je trouve qu'il y a, en tout cas personnellement, et là je parle de mon avis, je trouve qu'il y a de plus en plus de conflits, notamment sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression, en tout cas, mon avis là-dessus, c'est que cette grande partie des conflits, c'est dû à la mauvaise interprétation de la parole. Lorsqu'on voit un texte écrit, notamment sur les réseaux sociaux, on n'a pas l'intonation et il n'est pas évident de comprendre vraiment ce que l'autre veut vraiment dire. Prenez un exemple simple, t'es con. Voilà. Vous avez t'es con, dites-la à haute voix, avec différentes intonations, et vous verrez que vous changez complètement le sens. Et si vous ajoutez en plus les différences culturelles entre les pays, vous avez un cocktail explosif. Anecdote, j'habite au Québec. La première fois qu'un Québécois qu'on avait invité à manger a dit à ma conjointe « c'est écœurant », ça fait tout bizarre. Alors qu'au Québec, « c'est écœurant », ça veut dire « c'est très très bon ». Cherchez à comprendre. Là, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est vous aider à chercher à comprendre comment fonctionne l'autre. Parce que si on sait comment fonctionne l'autre, comment pense l'autre, c'est pas forcément l'objectif de le manipuler. C'est aussi vouloir faire l'effort de changer son point de vue pour comprendre pourquoi il réagit comme ça. Et surtout, si jamais ça se passe mal, comment est-ce qu'on peut désamorcer tout ça? Je vais prendre un autre exemple, c'est en tournoi par exemple, si votre ami est un Spike, ne lui en voulez pas d'être déçu si il fait un 3-1, 3 victoires, une défaite, et que sa défaite, pour lui, elle est difficile à avaler parce qu'il devait la gagner. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter de votre ami Spike, mais ça veut dire que vous allez comprendre pourquoi est-ce que, alors qu'il a fait 3-1, qui est quand même super, lui, il rentre en tirant la gueule, alors que vous, vous avez fait 0-4 et vous êtes heureux comme pas possible. C'est aussi, en comprenant que votre ami est un Spike, ça va vous permettre d'aller le voir et d'éviter de lui dire « Hey, arrête de t'énerver, c'est qu'un jeu ». Les gens sont assez intelligents, on sait tous que X-Wing est un jeu, qu'on fera jamais notre vie avec ça, etc. En connaissant la personne en face de vous, non seulement vous allez comprendre, mais vous allez aussi pouvoir trouver une autre approche qui lui correspond plus. Exemple, par exemple, toujours sur notre Spike, on pourrait discuter de sa partie, trouver ce qu'il aurait pu faire pour gagner le match. Et on pourrait trouver plein d'autres choses pour les autres types, les Timmy, les Johnny, un Johnny qui est pas content, pourquoi il est pas content? Peut-être parce qu'il y a 15 personnes qui sont venues avec sa liste, et lui qui voulait être original. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas psychologue, je vais pas vous trouver les axes, et puis je vais pas faire de la psychologie de comptoir. On vous laisse découvrir autour de vous les gens qui sont autour de vous, mais chercher à comprendre l'autre, c'est aussi une manière de pouvoir aider, de pouvoir comprendre, et aussi d'éviter de s'énerver avec un ami, parce que on comprend pas sa réaction. Et
bien dit, ça aide aussi à comprendre pourquoi un Johnny hors tempo, il jubile ben raide là, quand il est en train de te sortir de la map. Parce que lui, il a trouvé son point G. Là. Il est en train de tripper. Là.
C'est ça.
Puis là, tu trouves qu'il est exubérant, puis t'as l'impression qu'il t'attaque personnellement, puis qu'il rit de toi. Ben non, il y a du fun dans son optique qu'il a réussi à faire. T'sais.
Et puis une fois que t'as compris ça, finalement, tu peux trouver du fun, du plaisir à voir l'autre prendre du plaisir, parce que t'as compris que il a atteint quelque chose qui lui plaît vraiment.
Exact.
Et puis du coup, tu peux laisser ton côté Spike de côté, ou ton côté Timmy de côté, et te dire... Voilà, j'ai en face de moi un Johnny qui s'éclate.
C'est ça. Fait que sur ces belles paroles de sagesse, Julien, je propose qu'on invite les gens qui nous écoutent à venir sur notre groupe de discussion Facebook pour nous dire si vous pensez être un Timmy, un Johnny ou un Spike, un hybride ou un Vortos dégénéré.
Et balancer les autres surtout.
Oui, c'est ça. On veut des noms.
Machin.
On veut des noms.
Dites des gens, lui c'est un Timmy, lui c'est un Johnny. Non, lui c'est un Spike. Faites des débats, c'est rigolo.
Oui, exact. Parce que évidemment, on vous invite à venir échanger sur notre forum de discussion de façon constructive. Puis aussi des commentaires sur notre émission. Puis vous pouvez aussi nous contacter évidemment par courriel, au courriel de l'émission qui est millenniumdiffusion@gmail.com. Aussi, si vous pouviez nous laisser des commentaires sur iTunes ou sur Podomatic et nous évaluer, là, nous donner des étoiles, ça serait vraiment apprécié parce que c'est une façon aussi pour nous d'avoir du feedback, savoir si, qu'est-ce qu'on fait, c'est le fun ou si on a juste moi puis Julien qui trippe. Sur ce, en mon nom, au nom de Julien, au nom de tous les Vortos du Québec et de la France et de la francophonie, je vous remercie d'avoir été là et on souhaite vous revoir au prochain épisode. Pour des discussions X-Wing en français, nous sommes Millennium Condor Balado Diffusion.
De s'envoyer du paillasson, limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Woo-hoo! I am the king of the divan. Sa place.